y a des années qui ne sont pas forcément faciles à négocier. Cette année en particulier, il y a beaucoup de télescopage historique parce qu'on est dans le centenaire du début de la Première Guerre mondiale, dans le 70e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou du débarquement plutôt, qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, voilà. Et on a un peu tendance à mélanger, à confondre les deux. Alors, à la Voix du Béarn, aujourd'hui, nous allons essayer de mettre un peu d'ordre dans tout cela avec quelque chose, une association que vous connaissez peut-être, sans doute. Vous ne savez peut-être pas que c'est une association d'ailleurs, parce qu'on a des auditeurs qui nous ont dit que ça doit être des militaires qui font une présentation de véhicules historiques. Ils ont dû récupérer des véhicules réformés de l'armée, et puis ça doit être quelque chose d'officiel. C'est l'escadron Béarn-Bigorre, avec deux représentants, deux éminents représentants de l'escadron. Tout d'abord, le président Christian Carrasquet. Monsieur Carrasquet, bonjour.
Bonjour.
Et ensuite, l'homme de la communication de l'escadron, Michel Bardochamp. Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui à nos micros. Alors, première question, l'escadron, ça existe depuis quelle date ?
Alors, l'escadron Béarn-Bigorre a été créé le 25 novembre 2002. Alors, il était quelques mois avant, mais officiellement le 25 novembre 2002, nous avons fait la déclaration en préfecture de Pau, puisque c'est une association dont le siège social est béarnais. Donc l'escadron Béarn-Bigorre a été créé le 25 novembre 2002, enfin en tout cas déclaré en préfecture le 25 novembre 2002. Il existait déjà depuis quelques mois. Nous étions 5-6 membres au départ. Aujourd'hui nous sommes 22 membres actifs. À l'époque, il y avait à peu près autant de Bigourdans que de Béarnais. Aujourd'hui, il y reste un, deux Bigourdans et tout le reste sont des Béarnais.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous les avez découragés ? Vous les avez...
Non, eh ben, la plupart sont venus en Béarn parce qu'ils se sont dit que c'était quand même beaucoup plus joli que la Bigorre. Donc, ils sont venus chez nous. Non, il y a eu des déménagements dus à souvent des raisons professionnelles.
Des situations professionnelles.
Ouais, exactement, oui. Exactement.
D'accord. En termes de véhicules, parce que ça fait quand même pas mal de monde lorsque vous vous déplacez, alors, ça représente de combien ?
Alors, en termes de véhicules, dans l'association, il y a 25 véhicules au total, roulants et restaurés, c'est-à-dire à état de collection. Il y en a encore d'autres en cours de restauration, hein, plusieurs, une petite poignée. Quand nous faisons des déplacements, c'est rare d'avoir tous les véhicules en même temps, surtout que nous sommes 22 membres pour 25 véhicules. Et les convois que l'on fait, en général, avec les disponibilités des gens, c'est aller entre... Le maximum qu'on ait fait, c'était 12-13 véhicules.
Oui.
On a fait des grands convois. Hein. On est parti... Enfin, on va tous les ans, on en parlera plus tard, je pense, sur nos sorties. On va tous les ans jusqu'à à côté de Sarlat, en Dordogne. Donc là, c'est un gros convoi. Après, il faut passer les 15 véhicules, parce qu'au-delà de 15, on a des contraintes administratives, il faut faire des déclarations en préfecture, enfin, c'est un peu la galère. Donc on évite ce genre de choses.
Mais en Béarn comme en Bigorre, on n'est pas sur les principaux axes de passage des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas le plus facile. On aurait été en Vallée du Rhône, on serait en Normandie ou dans le nord de la France, on comprend bien, là, il y a eu profusion de véhicules qui sont même restés en route, en bon état ou pas, mais par ici, ils étaient quand même beaucoup plus rares. Où est-ce que vous les dénichez, vos véhicules ?
Alors, certains véhicules ont été récupérés par des régiments français après-guerre pour avoir des missions militaires et ont été vendus par les domaines, alors soit des carrières de minerais, enfin de cailloux pour les poids lourds, soit des faits agricoles ou des choses comme ça dans les années 50. Et nous, on les achète. Aujourd'hui, de toute façon, ce type de véhicules ne s'achète plus que de particulier à particulier.
Disons que autour de ces véhicules, on a chacun une passion. Alors c'est vrai qu'historiquement, il s'est passé moindre d'événements ici, dans la région, mais chacun d'entre nous a son histoire familiale, personnelle, et on est resté attaché par une image, quand on était petit ou autre, ou le service national, et depuis, on a transporté cette passion avec nous, et on a atterri dans le Béarn, pour part d'entre nous, bien sûr. Et on aime ce genre de véhicule, et bien sûr la passion étant là, et bien à un moment il faut en avoir un, en posséder un, d'où vient la restauration. Restaurer seul son véhicule, c'est bien, mais se mettre dans un club, c'est pas mal aussi, je dirais.
Et ça puis, permet, de, ça profiter, permet de... Voilà, de profiter des connaissances de chacun, parce que dans l'association, vous avez des personnes qui sont férues d'histoire, comme Michel, et qui sont capables de nous trouver les marquages qu'il faut faire dessus, les régiments qui ont existé, etc. Vous avez des gens d'association qui ont des doigts de fée, on pense à Jean-Pierre, à Willy, qui ont des capacités au niveau tôlerie ou autre. Des gens comme Thierry qui sont des grands mécaniciens et qui arrivent à vous faire démarrer un moteur rouillé presque. Donc voilà, ça permet de mettre tous ces talents en commun et à faire en sorte que les véhicules roulent aujourd'hui, puisque n'importe quel véhicule de l'association est capable de faire n'importe quelle distance aujourd'hui. On n'a pas de souci mécanique, ou quand c'est un souci mécanique, quand on part en convoi et qu'on tombe en panne sur le bord de la route, c'est un condensateur qui nous a lâché, c'est une bobine, c'est des pannes qui sont dues, malheureusement, aux qualités des accessoires que l'on trouve aujourd'hui sur le marché, puisque des accessoires américains d'époque, il n'y en a plus. Donc ce sont des copies venues d'un autre côté de la planète et on a souvent des soucis. On a retrouvé dernièrement des condensateurs où le fil était carrément pas branché à l'intérieur, quoi.
Oui.
Donc c'est principalement des petites pannes comme ça.
Ouais, mais dans la plupart des cas, bon, bien sûr, on est tous des collectionneurs passionnés. Nous avons donc l'état des véhicules et on les conserve au mieux. Maintenant, les pièces, pour certaines, viennent d'Asie. Donc, effectivement, la qualité des matériaux s'en ressent et la panne peut arriver. Il y a quelque temps, on est tombé en panne, mais on compte les uns sur les autres, nos connaissances techniques, pour pouvoir réparer les véhicules et on se débrouille toujours. C'est aussi un peu le côté sympathique de ces véhicules. Ce sont des mécaniques accessibles, faciles, et on peut les entretenir facilement.
Alors, ce sont des véhicules qui ont besoin de marquages spécifiques. Christian nous l'expliquait, mais Michel, là, je me retourne un peu vers vous. Ces marquages, suivant les époques, il y a des différences nettes ou moins nettes de marquages. Alors, vous faites comment? Vous respectez le numéro de série du véhicule, ou vous allez chercher l'historique du véhicule, ou vous vous attachez à l'époque approximative dans laquelle il a été opérationnel et vous prenez les marquages de l'époque. On fait comment dans ce cas-là?
Oui, c'est on peut le dire, voilà. Suivant l'état du véhicule, suivant ce qu'on va trouver. Soit le véhicule, il a conservé ses marquages, à ce moment-là, on garde les mêmes marquages, c'est ce qui fait toute l'authenticité du véhicule, et il y a l'historique derrière, on peut retrouver tracé, l'unité, la division, par où il est arrivé. Ça, c'est la perle rare, c'est ce qu'on essaie d'avoir. Mais malheureusement, les véhicules sont passés entre plusieurs mains, le temps a fait son œuvre, et on arrive difficilement à retrouver. Alors, soit on est fanat d'une certaine unité, et puis on applique les marquages, les codifications qu'il y avait comme à l'époque. Et pour cela, il y a des livres qui en parlent, hein, des livres spécialisés, des revues techniques, et ainsi de suite. Et voilà, pour la plupart. Ou alors, on aime une certaine unité, on a une unité favorite, à son cœur, à son image, ce qu'on aime, la passion, parce qu'on vient tous parfois d'une autre région, et on préfère mettre ce marquage-là. C'est mon cas, on pourra en parler plus tard. Et voilà, donc chacun fait à son goût, en fait. Mais toujours dans un esprit d'authenticité, dans le marquage en lui-même, c'est-à-dire la position, voilà. Le respect,
en respectant l'unité bien sûr qui existe, puisque les marquages qui sont faits sur les pare-chocs donnent des éléments importants. Ils servaient pour les MP sur les voies en France, ils servaient pour les chargements dans les bateaux, et donc les marquages sont rigoureusement faits à l'identique, avec le numéro de la division, du régiment, de l'unité, peu importe, de l'autre côté le numéro de la compagnie, le numéro du véhicule dans la colonne, etc. Donc ça, c'est pas fait au hasard, c'est fait au hasard, mais tout en respectant des règles de l'époque, etc. Les hauteurs de lettres aussi sont respectées, puisque nous on est en centimètres, mais les Américains étaient en pouces, donc si vous mesurez, vous allez retrouver des trucs qui ne correspondent pas à des centimètres près. Les diamètres des étoiles, c'est pareil, l'étoile du capot, quand elle y est, elle est faite au bon diamètre, etc. C'est pas fait au hasard, c'est d'ailleurs là où c'est intéressant. Si c'était fait au hasard, ça serait moins marrant, quoi. On cherche des complications des fois.
J'ajoute également une précision, c'est vrai que notre club, on dit Escadron Berne-Bigorre, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on est quand même assez orienté sur les véhicules américains, ça je tiens à le préciser. On accepte également les véhicules français d'époque, 1940, si quelqu'un en avait, bien entendu. Hein. Bon, l'allemand, c'est
ou
très rare. Ou anglais, l'allemand, bon, c'est un peu particulier, je dirais. Mais on ne fait pas de ségrégation.
Si vous avez des véhicules anglais qui se présentent pour venir appartenir à l'escadron, vous n'allez pas les refuser.
Non. Là, aujourd'hui, il y a un
véhicule... Ils sont les bienvenus, même.
Voilà, il y a un véhicule anglais qui est en cours de restauration. Mais aujourd'hui, sur les 25 véhicules qu'il y a dans le club, donc il y a 3 poids lourds, puisqu'il y a une dépanneuse, une grosse dépanneuse de 12 tonnes. Il y a 2 GMC... après, on a 5 Dodge, 15 Jeep et 2 motos. Tous ces véhicules sont des véhicules américains, d'origine américaine. Voilà.
Every night while I'm undressing, saying my prayers and lightly confessing, I can hear hot licks from a set of drums upstairs. Well, it couldn't be Johnny, cause he isn't there. Johnny's overseas, we know not where, but believe it or not, every night on the dock, I can hear a tenor drum say, Billy Dick, tick-tack. When's that character coming back? When's that kid in the GI lit gonna choo-choo down the track? Poor old me, I'm as beat as can be, and my rim has even started to rust. And look at these sticks trying to tick out the licks, they're covered with an inch of dust. Beat my dust, Billy Dick, tick-a-tack. When's that character coming back? When's that boy with the jumping joy gonna launch that last attack? If he'll roll, roll, roll like a drumstick, chewing, chewing, chewing on a drumstick, Jack will soon have a Japanese derby to beat like a cymbal on the music rack. Billy Dick, tick-tack. When's that character coming back? When's that boy with the jumping joy gonna launch that last attack? If he'll roll, roll, roll like a drumstick, chewing, chewing, chewing on a gumstick, Jack will soon have a Japanese derby to beat like a cymbal on the music rack. Billy Dick, tick-tack. Billy Dick, tick-tack. Billy Dick, tic-tac. When's that character coming back, Mom?
Les Dodge en particulier, il y en a un sur votre site internet sur lequel on voit les photos de différentes étapes de la restauration. C'est un gros travail, ça.
Alors, il y a plusieurs véhicules. Vous avez un onglet spécial pour les restaurations. Vous avez plusieurs véhicules sur lesquels on a mis des photos de la restauration, hein, puisque il y a la Harley Davidson de Thierry, il y a des Dodge, il y a des Jeep, etc. Chaque véhicule demande énormément d'implication et de travail. Ça dépend dans quel état on le récupère. Des fois, il est même pas roulant. Des fois, il est entièrement rouillé. Il y a des véhicules qui ont été récupérés dans l'association. Il y avait un arbre qui poussait au milieu de la carrosserie, donc. Vous pouvez imaginer que le véhicule n'était pas prêt de rouler, donc il a fallu d'abord tronçonner l'arbre pour récupérer le véhicule. Mais après, chose importante aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit des véhicules dans l'association, mais l'association aujourd'hui ne possède aucun véhicule. Les véhicules appartiennent à des personnes, et ces personnes, nous nous sommes mis en commun, ensemble, pour créer cette association. Le véhicule a seulement une sono qui nous permet d'animer nos expositions avec de la musique d'époque et pouvoir parler au public avec nos micros, mais il n'y a pas de véhicule à l'association. Chaque véhicule, chaque membre a un ou plusieurs véhicules, ou d'ailleurs aucun véhicule. On a des gens dans l'association qui n'ont pas de véhicule, qui sont des sympathisants ou des férus d'uniforme et qui viennent faire... figuration à côté des véhicules quand on est sur une commémoration ou une chose comme ça.
Alors justement, vous parlez d'uniforme, c'était ma prochaine question, ça tombe bien. Vous êtes en tenue quand vous faites vos présentations?
Alors, on essaye d'être en tenue, bien entendu. Tout dépend du type de manifestation. Lorsque ça revêt un caractère officiel, oui, on essaie d'être en tenue. Pour montrer au public simplement ce qui va avec le véhicule, comment étaient habillés les gens. On peut rentrer dans le détail après si vous souhaitez, sur les tenues de sortie, les tenues de combat, les équipements, chaque soldat, comment était habillé. Ces véhicules, on essaie de les mettre, de les exposer avec les tenues à côté. Bien entendu, ça donne du relief. Voilà.
Tout dépend de la demande en fin de compte. Hein. Là, par exemple, on va avoir prochainement des commémorations à faire pour le 8 mai. Voilà. Donc sur 2 villages, c'est déjà sûr, c'est Sauveterre de Béarn et Osseviel. Il y a Syros qui est en passe de se faire. Ils ne savent pas trop si on va le faire là ou si on fera le 11 novembre. Donc dans ces expositions-là, les communes nous demandent d'être en tenue pour donner un cachet historique aux véhicules. Et puis après, on fait d'autres manifestations, hein, qui sont des fêtes de village pour balader les enfants ou des choses comme ça, où là, on est tout simplement en jean avec notre t-shirt club avec lequel nous sommes là aujourd'hui. Et voilà, on va pas, parce que ça peut gêner aussi les gens, le fait d'être dans certaines manifestations en uniforme, oui. Ça peut gêner les gens.
Oui, le véhicule, c'est une chose. Voilà. L'uniforme qui va avec,
ça peut être gênant. Comme les armes, même si aujourd'hui, dans l'association, nous n'avons que des armes factices, oui. Ou neutralisées, puisque nous ne sommes pas un club de tir. Hein.
Oui, là, j'ai sous les yeux, par exemple, la Jeep SAS, elle est équipée de 3 mitrailleuses, il n'y a aucun danger.
Non, il n'y a aucun danger.
Aucun. Ce sont des répliques.
Ce sont des répliques qui ont été faites par rapport à... Enfin, avec l'aide de vraies armes qui nous ont été prêtées par des collectionneurs ou par des musées comme le musée des parachutistes de Pau avec qui nous avons une très bonne relation, qui nous prêtent des armes, on fait les copies, alors ils nous les prêtent en deux parties parce qu'ils ne peuvent pas nous prêter l'arme complète, ils nous les prêtent, on fait la copie avec l'aide d'autres sociétés qui nous aident. Et après, les armes sont posées dessus, mais les canons sont pleins, il n'y a même pas de mécanisme à l'intérieur, c'est vraiment du look. Mais après, on trompe parfois la gendarmerie qui nous demande que cette arme, vous avez les papiers, et c'est en s'approchant qu'ils voient que ce sont des fausses.
Voilà, exactement. Oui, c'est vrai que le véhicule en lui-même, certes, ce sont des beaux véhicules, on a restauré des belles choses, mais après, lorsqu'on fait des manifestations, ou alors lorsqu'on se regroupe entre nous, parce qu'il y a plusieurs clubs dans la région Aquitaine, hein, là, oui, effectivement, on revêt des tenues pour coller vraiment à l'image d'époque, pour monter un camp américain avec au mieux l'infrastructure qu'il y avait. Et puis, il y a une ambiance, voilà, il y a un cachet, une ambiance, et ça, c'est quelque chose qu'on vit. On vit pleinement notre passion.
Donc, aujourd'hui, vous en êtes, vous, pour la Deuxième Guerre mondiale, à ce que peuvent faire, par ailleurs, des passionnés de l'époque napoléonienne, remonter un camp sur l'espace d'un week-end ?
Alors, on fait... À notre niveau, on fait à peu près la même chose, sauf que on est un peu moins puristes qu'ils ne le sont eux. C'est-à-dire que nous, dans nos tentes américaines, on a des matelas gonflables, éventuellement les chauffages l'hiver, et que eux sont des vrais qui dorment sur la paille. On essaye de faire en sorte que le public ne s'en rende pas compte, mais bon, on a quand même notre propre confort. Hein. On est dans une région où on mange bien, donc on aime bien manger autre chose que des sandwichs jambon beurre. Caché dans un truc et donc
vous n'avez même pas les boîtes de cornets de bœuf.
Ah non,
non, c'est pas le bois de cornets de bœuf, on n'est pas là, ça on a laissé de côté, on préfère le magret. Mais oui, c'est vrai qu'on essaye de l'aspect visuel d'un campement, surtout on essaye de retrouver du matériel un peu partout,
des radios.
On fait souvent des vide-greniers, on peut le dire aussi, pour essayer de trouver des choses d'époque que les gens mettent de côté, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Et puis, lorsqu'on fait des reconstitutions, et ben là, on montre le côté américain, US d'un camp, mais après, pour la vie courante, souvent, on a quand même notre confort, et on est bien content d'en avoir, comme disait mon cher président.
Bon, on va un peu parler de la moyenne d'âge dans l'association.
C'est une colle.
Vous avez des jeunes qui arrivent ou c'est plutôt des gens qui ont 40 ans et au-delà ?
Est-ce qu'il y a encore
des jeunes qui sont intéressés ? C'est les véhicules, c'est l'histoire, c'est les deux. Ça se passe comment ?
Alors aujourd'hui, dans l'association, dans les membres, il y a nos enfants, hein, aussi bien Michel que moi.
On a des jeunes recrues.
Des jeunes enfants qui nous suivent parce que c'est toujours sympa de passer un week-end où on peut faire un petit peu ce que l'on veut parce que... Quand on est sur des grosses concentrations, on pense à Vézac, par exemple, où il y a des chars, des trucs comme ça, et que entre collectionneurs, on s'autorise de laisser les enfants de nos amis monter sur les véhicules. Ben, en général, ils sont tous sur le char. Hein. Mais c'est vrai que on a donc ces jeunes-là. Après, dans les membres actifs, je pense que le plus jeune, c'est Alexandre, qui chauffeur de ma part dans les 25 ans. Et le plus ancien, c'est Jean-Pierre dont on parlait tout à l'heure, qui est un retraité qui a la retraite. Et voilà, dans les 68 ans, je pense. Jean-Pierre, c'est déjà 68 ans. Donc ça va à peu près là. Après, la moyenne d'âge, je ne saurais pas vous dire...
Entre 40 et 50 ans, allez, 45, on va couper la poire en deux, dans les 45 ans, c'est vrai.
Oui.
Pour raisons qui semblent quand même assez évidentes, ces véhicules prennent de la place, coûtent un peu d'argent, parce que pour restaurer, il faut quand même des moyens techniques et des outils, Et surtout, il faut les entreposer. Donc tout ça, si on met toutes ces conditions les unes derrière les autres, vous vous rendez bien compte que pour un jeune, il faut un hangar, un logement, un garage. Donc nous sommes quand même des gens, pour la plupart des membres, des gens installés, ayant un travail et de la place autour de la maison pour pouvoir garer ses véhicules.
Oui.
Donc le jeune, tout jeune commençant...
On ne va pas dire de préférence à la campagne, mais pour avoir de l'espace, c'est presque l'idéal.
C'est presque l'idéal, parce qu'en plus, on peut faire du bruit quand on restaure. Et ça, c'est le voisinage, des fois, le voisinage, il n'aime pas trop.
Alors, mais... aujourd'hui, ça n'est pas que j'ai l'intention de le faire, mais quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'acquisition d'un véhicule, on trouve plus facilement une Jeep, un camion, on trouve quoi, on trouve dans quel état, et pour quel prix?
Alors déjà, c'est une bonne remarque, c'est en plus on a des demandes régulières sur notre site, puisque bon, on a un site qui est très visité, on fait plus de 60 000 visites de 78 pays, donc on a souvent des gens qui nous consultent pour des conseils d'achat, hein, nous dire voilà, on a l'intention d'acheter ce véhicule, qu'est-ce que vous en pensez? Donc en général, ils nous envoient des photos, oui. On leur dit ben, ça c'est pas de l'américain, c'est du français, ça, c'est... donc on les aide aussi dans l'achat, et ça on le fait avec grand plaisir, donc les gens qui veulent nous faire des demandes de ce type, c'est avec plaisir. Les véhicules aujourd'hui sur le marché, il y a un peu de tout. Hein. Il y a aussi bien de la Jeep que du gros poids lourd.
Mais une Jeep, par exemple, parce que j'ai regardé un peu pour préparer cette émission, on en trouve à l'état d'épave à 3000 euros. On en trouve aussi qui sont relativement belles ou très belles, qui dépassent les 32 000. Alors qu'est-ce qu'il faut faire?
Eh bien, c'est à peu près la fourchette. C'est à peu près ça. Alors à 3000 euros, il n'y en a pas beaucoup, à vrai dire. C'est pas courant. La moyenne, on va dire, sur le site bien connu, vous avez des Jeeps entre 7 et 10 000 euros.
Et 10 000 euros, oui.
Mais certaines en valent 5 et certaines en valent 15. Donc c'est difficile d'acheter sans avoir les connaissances, puisque nous, quand on a acheté nous-mêmes, on les avait pas forcément, on les a acquis au fur et à mesure. Aujourd'hui, les gens qui rentrent dans notre association... ont acheté parce qu'on leur a expliqué, on leur a... Voilà, mais au début, nous, quand on a commencé ça, pour certains, la collection, il y a 15 ou 20 ans, on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui.
Oui.
Une Jeep, aujourd'hui, ça vaut, allez, au minimum, une Jeep correcte avant restauration, ça vaut 7000 euros. Et une Jeep restaurée, pour un modèle rare comme la Hurley, par exemple, qu'il y a sur le club, ça peut monter. Il y en a une dernièrement en Angleterre qui s'est vendue 32 000 euros. Voilà, donc c'est une grande fourchette, mais au milieu, il y a beaucoup de choses.
Donc là, on rejoint tout à ce qu'on disait, la plage est grande, la plage dans la restauration et des véhicules, c'est-à-dire que soit on trouve une Jeep, comme vous disiez, à 3000 euros, 3000 euros, c'est une base de départ sur une Jeep française, d'origine française, refaite, où l'aspect historique pour certains est moindre. Et ça peut aller jusqu'à 30 000 euros, mais là, c'est la pièce exceptionnelle qui a un CV, j'allais dire, avec un historique derrière, avec des combats, une participation, et puis un modèle rare par ses caractéristiques, parce que c'est bien souvent les premiers modèles. Le premier jeu de sortie de Jeep en 1941, par exemple.
Oui.
Là, on trouve des choses rares et les prix peuvent flamber rapidement. Oui.
The same old sweetheart, the same old place, a boy in khaki, a girl in lace. He bent to kiss her, she lifts her face, the boy in khaki, the girl in lace. Tenderly he sighs, I will come back to you. Oh, my darling, please do, she replies. And so we leave them in fond
restauration, il faut toujours se méfier de la restauration parce que il y a des bonnes, il y a des mauvaises surprises. Et on peut trouver une pièce rare sans le savoir, mais on peut souvent se retrouver à acheter une Jeep à 7000 euros et la restaurer parce qu'on veut la restaurer parfaitement et se retrouver vite avec une grosse plus-value parce qu'il y a plein de pièces à changer. Donc des fois, il faut vraiment réfléchir à ça. Est-ce qu'il vaut mieux attendre comme on fait certains novembre et s'acheter une voiture entièrement restaurée, hein, Jean-Michel qui lui a fait restaurer entièrement une Jeep par un professionnel, ça lui a coûté, je pense, moins cher que d'acheter une épave et de se la restaurer lui-même petit à petit. Donc c'est vraiment une réflexion. Puisqu'on parle des Jeeps, il ne faut pas acheter une Jeep sur un coup de tête. Hein. C'est vraiment une réflexion. Il faut vraiment savoir où on va et pas se retrouver à un moment donné. Parce qu'on en voit malheureusement aussi des gens qui revendent parce qu'ils ne sont plus à même de restaurer. Parce qu'ils ont des véhicules en cours de restauration.
Je vous ai posé la question pour la Jeep. Parce que quand on parle de Deuxième Guerre mondiale, c'est le véhicule emblématique, forcément. Et il y a eu des Jeeps aussi bien en Union soviétique qu'en Normandie, à différentes époques. Parce que les Américains ont fourni du matériel même à l'Union soviétique. Donc il peut y avoir des provenances d'un peu partout. Mais justement, certaines de ces véhicules, Jeep ou autres d'ailleurs, ont été plus ou moins transformés mais suivant les réutilisations ultérieures. Quand ils ont été profondément transformés, quelquefois ils sont pour vous peut-être un peu trop défigurés.
Oui, alors là c'est l'aspect, comme on est toujours d'un club historique, on privilégie le côté origine du véhicule. Et c'est vrai que à nos yeux, je pense, lorsqu'on voit une Jeep transformée pour faire les rallyes, alors ici, un rallye qui est très bien connu, par exemple le rallye des Cimes, hein, je pense que c'est ce à quoi vous pensez. Effectivement, là, la Jeep ne ressemble plus à rien, parce que le moteur est changé, les ponts sont changés, le pneumatique aussi, les arceaux de sécurité, il y a des normes, voilà, l'aspect extérieur est complètement modifié.
Donc là, par exemple, ça ne vaut pas le coup d'attendre une restauration.
Non, sur ces véhicules-là, ils ont malheureusement, pour nous, je pense, il faut l'éviter parce que ces véhicules-là ont malheureusement souffert parce que on a forcé sur la mécanique et donc là, ce n'est pas à peine. Non, le rêve, là, c'est le côté mythique de notre affaire, c'est de trouver la fameuse Jeep dans la grange qui est restée, mais ça, c'est vraiment un mythe, hein, je le dis à tous nos auditeurs, il y a toujours le bruit qui court et il courra encore. Il y a des Jeeps d'origine, les Américains, ils l'ont laissé dans la grange et on la cherche toujours. Mais
si elle est planquée derrière les bottes de paille,
exactement.
Si un des auditeurs en connaît une, qui n'hésite pas, voilà, nous viendrons la voir avec plaisir. Même déjà rien que la voir.
Voilà, on peut trouver des fois des motos, c'est déjà arrivé, et on peut encore sur certaines motos, mais c'est très rare, c'est très rare.
Oui. Voilà, oui, ça devient quand même compliqué. Voilà. Là, maintenant, c'est un premier passionné qui a acquis et plus ou moins ou complètement restauré, qui revend parce que vous êtes intéressé.
Voilà.
Et
voilà.
Ça passe de main en main, comme ça vous disiez tout à l'heure.
Voilà, ou alors de trouver quelqu'un qui avait une Jeep, qui faisait pas du tout terrain, mais pour ses besoins personnels, pour aller chercher du bois, qu'il avait récupéré ou hérité d'un grand-père, d'un père, qui était remis dans un coin, qui servait un peu aux années 70, à la plage et tout. Et voilà, dans cette optique-là, là, on peut trouver parfois des pièces intéressantes. Ce sont des véhicules qui ont été utilisés, mais sans plus, pas trop modifiés, mais qui ont encore une bonne, une plus-value. Non, c'est pas une affaire commerciale, mais un bon historique et pour nous qui est intéressant.
Parce qu'aujourd'hui, on ne gagne pas d'argent sur une Jeep. Si on devait vendre les Jeeps, nos Jeeps, on ne gagnerait pas d'argent. On récupérerait ce qu'on a misé, au mieux, mais. Non, c'est pas du tout l'objectif. De toute façon, déjà, les membres de l'association ne vendent pas leurs véhicules. Enfin, j'en connais pas en tout cas.
Non.
Mais,
pas à ma connaissance.
Mais bon, c'est pas l'objectif.
Et on est amoureux. Hein. C'est parfois nos femmes, nos épouses nous le reprochent, sont des concurrentes. Hein. La concurrente, elle est dans le garage et. Pour certains couples, c'est difficile à vivre.
Bon, oui,
je trouve la passion.
Que ce soit voiture, camion, on va essayer de sortir des incidents possibles, que ce soit voiture, camion, moto, vélo, puisque vous avez aussi un ou deux vélos, si j'ai bien retenu.
Il y a deux vélos.
Ce sont des mécaniques qui sont suffisamment rustiques pour être à l'épreuve de tout, qui sont quand même fragiles, dues à leur âge.
Alors, ce sont des mécaniques qui sont les deux à la fois, qui sont rustiques et solides, mais si on respecte la mécanique, ce sont des vieilles mamies. Donc on évite de rouler à 100 km/h sur l'autoroute, hein. C'est pas fait pour ça, c'est plus fait pour ça en tout cas. Donc déjà nous on roule en convoi, donc forcément un convoi c'est 50-55 km/h, à plus forte raison si je suis devant avec le poids lourd je ralentis tout le monde. Mais c'est vrai que on les protège, on fait attention quand on roule pas comme des sauvages, on évite le tout-terrain, on se fait plaisir parfois à faire du tout-chemin, un peu debout et choses comme ça, mais pendant qu'on est les pneus dans la boue, on pense déjà au Karcher derrière pour nettoyer. Et donc voilà, donc on y fait attention, mais ça reste ce qu'on disait tout à l'heure, quand même des matériels fiables avec lesquels on peut faire des distances importantes et se faire plaisir en respectant des arrêts réguliers pour contrôler les mécaniques, etc. Quoi.
Et l'élément qui fait peur, c'est le passage à la pompe, non ?
Alors les passages à la pompe, oui, c'est malheureusement parce qu'on n'a pas de subvention. Hein, s'il y a des sponsors, on est preneur. Donc aujourd'hui, vous avez des véhicules comme les Jeeps qui vont consommer suivant le type de carburateur, si c'est le carburateur d'origine ou on le met parce qu'on veut pouvoir rouler des carburateurs Solex. La consommation va osciller entre 13 et 17 litres, hein. Mais ça reste ceux qui consomment le moins.
Le moins, oui.
Un Dodge, vous allez consommer entre 25 et 35 suivant les modèles. Un GMC entre 35 et 50 suivant les conditions de travail. Et plus si vous attaquez des diamants, vous pouvez arriver au 1 litre au kilomètre, quoi.
In a foreign land, with weapons in every hand, whatever they try, we've got a reply in language that they understand. On, for the love of America, and for the love of every mother's son, who's depending on the work that must be done by the man behind the gun. They're in the camps and in the training schools. Now give them the tools. We call them from the factories and farms. Now give them the arms.
Now give them the arms. They got arms. Arms, arms, for the love of America. We've got to get in the rain and work at a lively pace. They say over here we've nothing to fear, but let's get ready just in case. Arms, for the love of America.
And for the love of every mother's son.
You want language they understand?
We speak it, brother, speak it loud.
We speak it in the mines and mills, munition plants, assembly lines, and navy yards and factories.
You want to hear a word or two? Okay, here's how that language sounds.
Yeah, the stutter of rivet guns, the whir of lathes, the clang of steel. That's the language they understand.
We speak it, brother, speak it loud.
We're American working men.
Behind the man, behind the gun.
We forge the arms, we roll the steel, refine the oil, machine the parts, make powder and aluminum, engines, mortars and merchantmen, and tanks and shells and fighting planes.
That's the language they understand.
We swing a sledge or draw a plan. We run a press or set a gauge. We drive a truck or keep the books. We work with muscle or with brain. Whatever job, it's one job now. Arms, more arms for America.
That's the language they understand.
Month on month, we make thousands of planes.
Just a whisper, wait till we shout.
More thousands of engines for them.
Just a whisper, wait till we shout.
Rifles and cannons, thousands of them. Merchant ships, thousands of tons. Millions of tons of steel. Millions of barrels of oil. Millions, millions.
Figures, wait till we shout louder and louder day by day in tanks and shells and fighting planes, engines, mortars and merchantmen until they quiver at the sound.
That's the language they understand.
We speak it, brother, speak it loud.
Nothing to fear, but let's get ready just in case.
On
for the love of America.
And for the love of every mother's son.
Oh, the fight for freedom can be lost or won. By the man behind the gun. By
the man behind the man behind.
Bon, alors on a passé ce qui était le plus désagréable, maintenant on va repasser à quelque chose qui doit être pour vous beaucoup plus sympa, c'est les prochaines sorties. On a compris, il y a le 8 mai, mais au-delà, on est dans une année où il va y avoir beaucoup de commémorations pour la France sur la côte normande et la partie nord de la France, ça fait loin de chez nous, mais pas ici. Vous avez des sorties prévues, évidemment.
Oui, absolument, nous avons des sorties, alors je peux vous les citer, donc... Il y aura l'éco-commémoration le 8 mai pour Sauveterre Berne, on en a parlé déjà, ce seront des petites sorties, donc là vous aurez l'occasion de nous voir. Et également Escurès, donc au nord-est de Pau, le 28 juin exactement. Là c'est un regroupement de véhicules de collection, tout genre, mais on est toujours bien accueillis par Monsieur Patrick Silencieux, je le salue. D'ici. Et là, on fait un petit camp avec nos véhicules et les gens qui veulent nous voir et discuter avec nous, nous découvrir, sont les bienvenus.
C'est localement, on le fait tous les ans depuis 4-5 ans maintenant, oui. C'est localement l'endroit où on montre ce que l'on va faire loin d'ici. Alors, je m'explique. Quand on va faire des grosses concentrations dans le reste de la France, on fait des reconstitutions avec du temps, du matériel, etc. Ici, on ne le fait pas forcément parce que c'est des sorties club, donc on ne sort pas forcément du matériel. Mais quand on va là-bas, ils nous octroient une partie qui est assez sympa, à côté d'une vieille grange qui donne un cachet un peu ancien. Et on met les tentes d'époque, les vaches à eau, les radios, les tentes de place qu'avaient les soldats d'époque, etc. Certains d'entre nous se baladent en uniforme pour montrer comment étaient les gens habillés pendant le conflit. Et donc voilà. Donc c'est localement une sortie où vous pouvez nous voir et vous pouvez voir de nombreux véhicules. On fait des petites démonstrations de franchissement aussi. Il y a un talus qui fait 1m50. Là, on fait des démonstrations de franchissement aussi pour animer un petit peu cette manifestation. Et donc voilà. Et il va y avoir, effectivement, Michel, tu me fais signe. Il ne va pas aller sous l'eau, il va aller sur l'eau. Nous avons aussi un véhicule qui fait partie des... Il n'y en a que trois en France. Ça s'appelle une GPA, c'est une Jeep amphibie. Elle fait partie des quatre seuls jeeps amphibies de France qui sont capables de naviguer. Et cette jeep va faire des démonstrations à Escurès, comme tous les ans, dans un petit étang qui n'est pas très loin.
Une petite retenue d'eau, voilà, son propriétaire la met à l'eau, pour le bonheur de chacun d'entre nous et des visiteurs. Et c'est vraiment le temps fort de cette sortie, parce que c'est exceptionnel, comme disait Christian. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de véhicule, et par-dessus ça, en plus, ce véhicule a été entièrement, je vais pas dire restauré, il a été reconstruit, donc c'est une tâche immense, c'est quelque chose de faramineux ou pharaonique, mais il faut le voir.
Par Pierre Mouret, qui est maintenant connu même au niveau national, il y a eu des articles de journaux sur ce travail. Et puis il n'a pas peur de la mettre à l'eau, puisqu'on la met là à l'eau dans un étang, donc ça va, mais il va même dans la Dordogne mettre le véhicule dans la Dordogne tous les ans aussi.
Même en Italie, il a été au nord de l'Italie.
Il a fait la descente du Rhin, il a fait des grosses manifestations, donc c'est un véhicule qui est très très fiable.
Très fiable et au niveau européen reconnu. Voilà.
Alors, le 28 juin, on vous trouve à Escurès, vous venez de le dire, mais avant ça, il y a quand même une date importante cette année, c'est le 6 juin. Vous débarquez sur quelle plage normande ?
Donc là, cette année, on n'ira pas en Normandie. Donc Michel voulait y aller aussi.
Oui, on voulait... Mais... Allez, Normandie, nous avions déjà été deux fois de suite, enfin, espacé de 5 années, en Normandie. Et on s'est orienté cette année vers Folkestone, une grosse sortie qui sera plutôt au mois de juillet. Donc ça se passera dans le sud de l'Angleterre. Et là, il y aura une grosse concentration de véhicules européens de plusieurs époques. Première guerre, deuxième guerre, Vietnam, et on trouve même parfois l'Algérie pour certains. Et voilà, on va axer notre sortie dessus. Mais pour celle-ci, là, nous laisserons nos véhicules de collection au chaud, dans nos maisons, et on partira en touriste, si voilà, on peut dire, en découverte.
Les modalités sont pas encore tout à fait définies, oui, pour cette sortie. Ce qui est sûr, c'est la plus grosse concentration européenne de véhicules militaires, puisque, comme le disait Michel, ça prend tout type de conflit. C'est une très très grosse concentration qui s'appelle le War and Peace Show, qui existe depuis des années. Et donc voilà, donc cette année, on a travaillé pendant deux grosses années à organiser des vide-greniers pour gagner 4 sous et financer une partie des déplacements pour là-bas, pour que ça coûte le moins cher possible aux membres de l'association. Et donc voilà, on part là-bas.
Ça sera là notre sortie découverte, voilà. Une première.
Ouais. Pour l'Europe, les Anglais savent très bien faire ça de toute façon.
Eux, ils ont oui, ils savent très bien faire ça pour l'Europe. Oui. C'est d'abord pour eux.
Non, je veux dire, à l'échelle du continent européen, ensuite, on passe aux États-Unis. Alors, eux, c'est les chefs, c'est les rois, c'est tout ça.
Mais vous savez que, pour l'anecdote, les Américains, c'est une concentration qui est tellement importante que les Américains, tous les ans, viennent avec un bateau complet. Ils font un bateau avec entièrement rempli de véhicules militaires pour l'exposition. Donc tous les ans, il y a un bateau qui arrive des États-Unis avec des collectionneurs, j'imagine, fortunés, parce que ça doit coûter une fortune, hein, de venir en bateau, louer carrément un bateau complet pour y mettre je ne sais pas combien de véhicules. Et donc, c'est une grosse manifestation. Après, dans la même période estivale, on a une manifestation qui est en train de se mettre en place et qui est quasiment définie, hein, qui va être à Mugron, dans les Landes. C'est une manifestation organisée par un club ami landais, un petit club, hein,
on peut le citer, le 40e BCVM, exactement.
Voilà. Qui va organiser, il l'a déjà fait il y a plusieurs années, je ne sais plus quelle année c'était d'ailleurs, et qui va organiser cette manifestation. On va être plusieurs clubs à se retrouver pendant un week-end sur Mugron.
Dans la Chalosse, voilà. Encore des bons produits régionaux à déguster, mais surtout se retrouver
entre collectionneurs,
partager nos passions, nos découvertes, des techniques et encore beaucoup de matériel de couleur verdâtre à découvrir.
Bon, alors messieurs, il me reste maintenant à vous remercier. On pourra encore passer beaucoup de temps, mais ça nous fera l'occasion de vous faire revenir ou de vous rejoindre, pourquoi pas, pour aller vous voir sur place avec vos véhicules et peut-être même en tenue, on ne sait jamais. Donc on rappelle, le 28 juin à Escurès, puisque c'est pas trop trop loin de Pau, tous les Béarnais peuvent faire le déplacement à Escurès, c'est près de l'Embeil. Et ensuite, y a un site internet que vous allez nous citer, sur lequel on peut trouver toutes les infos.
Oui, voilà, bien sûr. Donc le site, vous pouvez nous retrouver, le club, nos animations, nos véhicules, enfin toutes les personnes, tout notre matériel.
La vie de l'association, en fait.
La vie de l'association. Donc je vous donne le site, c'est www.escadron-béarn-bigorre.fr. Tout en minuscules.
Voilà. Ou si vous n'avez pas eu le temps de prendre note, vous allez tout bêtement sur Google, vous tapez Escadron Béarn Bigorre, on est en premier.
Et on vous le mettra sur une page ici de La Voix du Béarn, comme ça, il y aura un lien direct, ça vous évitera d'aller chercher. La Voix du Béarn, vous connaissez déjà l'adresse.
Oui, mais d'ailleurs, merci beaucoup à La Voix du Béarn de nous avoir accueillis.
Merci à vous. On est très contents d'avoir fait découvrir à ceux de nos auditeurs, ceux et celles de nos auditeurs qui ne la connaissaient pas encore, d'avoir fait découvrir, de leur avoir permis de découvrir une association paloise supplémentaire. Messieurs, à très bientôt sur la route, sur le bord de la route ou dans ce studio, donc. Et puis, bon courage.
Et pensez aux commémorations du 8 mai 45, parce que c'est une date qui nous tient à cœur, à l'association. C'est pour ça qu'on fait plusieurs manifs. Donc, Osseviel et Sauveterre de Béarn, c'est confirmé. Syros en passe, mais bon, vous avez Osseviel qui est de l'autre côté de la route. Venez ou allez dans vos communes pour cette date-là, parce que c'est une date importante, en tout cas pour notre association.
Et... parce que au-delà de notre passion, il faut quand même souligner, c'est la chose qui nous motive pour la plupart d'entre nous, c'est comme le devoir de mémoire. Ça, je pense qu'il est important de ne jamais oublier. Certes, il y a la véhicule. Bon, pour nous, ce n'est pas du folklore, on pourrait le penser. Non, par-delà tout ça, il y a quand même l'aspect devoir de mémoire. Des gens sont tombés, il y a eu des morts, il y a des commémorations.
Oui, ne l'oublions pas.
On fait des participations, des fois dans des écoles. Il faut bien montrer aux jeunes que ces véhicules-là ne sont pas venus par hasard. Et s'ils sont là, nous, on perpétue ce côté historique, afin de ne pas oublier. Voilà.
Merci. Voilà. Merci. Merci à vous.
Et à très bientôt. À
yours till the stars lose their glory. Yours till the birds fail to sing.
Des corbeaux sur nos plaines. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ô les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton pardon. Qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens que des lits font des rêves.